J'espère que les questions que je vais aborder et la manière dont je vais les aborder ne sera pas trop simple. Je vois déjà que les intervenants et puis le public connaît déjà beaucoup, beaucoup de choses sur le droit d'auteur et sa pratique. Le sujet que l'on m'a demandé de traiter concerne acquisition, c'est acquisition et cession des droits d'auteur. Alors, droits d'auteur au pluriel. Acquisition et cession évoquent un transfert de droit, suggèrent une transmission par le biais d'un contrat. Et donc, au fond, la question qui se pose, c'est la question comment ? Comment opérer ce transfert ? Comment acquérir ? Comment céder ? Et la deuxième partie du sujet, droit d'auteur, dirige vers le contenu. Contenu à acquérir, à céder. Alors, évidemment, la question, c'est celle de l'objet du contrat. Et c'est la question que transférer, la question quoi. Voilà donc deux questions. Comment, quoi. Alors, il y a d'autres questions qui pourraient peut-être se poser, qui ont été un peu évoquées ce matin, notamment après l'intervention du professeur Lucas. En allant sur le site de l'UNT consacré au droit, j'ai vu qu'il y avait des enseignants qui étaient filmés pendant un cours, enfin qui apparaissaient. Et on peut envisager aussi, bien sûr, la question du droit à l'image et la question d'un contrat qui viendrait saisir cette question de l'autorisation de l'exploitation de l'image d'un enseignant. Bon. C'est pas ce qu'on m'a demandé de parler. Alors, ce dont on m'a demandé de parler, donc je vais me limiter à mon sujet. Comment et quoi ? J'en inverse l'ordre parce que c'est plus commode. Quoi et comment ? Quoi ? Bien sûr, il s'agit des droits d'auteur. Alors, que faut-il entendre par droit d'auteur ? Pourquoi le pluriel ? Vous le savez déjà, il y a un certain nombre de droits qui n'ont pas tous la même nature, qui ne suivent pas tous le même régime, et donc il faut essayer de faire de les distinguer et de les préciser. Alors, pour que peut-être les choses soient plus claires, je vais commencer par un plan large, et puis je vais m'intéresser plus particulièrement aux points essentiels et en zoomant sur ces différents points essentiels dans ma deuxième sous-partie. D'abord, un plan large. Ça a été dit ce matin, j'ai pas besoin de le redire, évidemment, mais nous parlons de propriété intellectuelle, nous parlons de droit d'auteur, nous parlons de propriété littéraire artistique, et au fond, tout ce qui fédère ces questions, c'est notamment la question de la contrefaçon, c'est-à-dire toute atteinte à un droit d'auteur, le non-respect du droit d'un auteur dirige vers la contrefaçon. Donc il ne s'agit pas de faire peur, il ne s'agit pas d'inquiéter, mais la contrefaçon est la conséquence de ce non-respect. C'est un délit civil et pénal. Mais c'est pas l'essentiel, c'est juste un rappel. Alors, précisément, la propriété littéraire et artistique, le droit d'auteur, les termes ici seront considérés comme synonymes, ce sont deux catégories de droits qui se présentent, il en a été question déjà, les droits moraux, qui sont d'ailleurs ceux qui figurent en premier dans le code de la propriété intellectuelle, les droits moraux de l'auteur, et puis les droits patrimoniaux. D'ores et déjà, vous le savez, ce dont il sera question, c'est exclusivement les droits patrimoniaux, parce que, par hypothèse, les droits moraux ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat, ne peuvent pas être cédés. Alors, évidemment, dès lors qu'il va y avoir cession des droits patrimoniaux, on voit apparaître un risque de conflit, une interaction pour le moins, entre celui qui exerce le droit moral sur une création, sur un cours, et puis celui qui aurait acquis les droits patrimoniaux. Et il peut y avoir effectivement ce conflit. J'en ai identifié quelques-uns qui peuvent se régler assez facilement, mais qui mériteront qu'on s'y arrête quelques instants. D'abord, un rappel, une présentation de ces différents droits de l'auteur. D'abord, les droits moraux. Alors, les droits moraux, dans le droit français, sont peut-être ce qui caractérise le mieux ce droit d'auteur à la française, c'est-à-dire c'est la philosophie, porte un peu la philosophie du droit d'auteur, parce que, on l'a dit ce matin, Quand on est en présence d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, ça suppose que l'œuvre soit originale, et cette originalité, c'est précisément l'empreinte de la personnalité de l'auteur. L'auteur met un petit peu de lui-même, c'est sa patte, c'est son style dans l'œuvre. Et on part avec cette idée qu'il y a un lien qui s'établit, donc qui naît de qui réunit l'auteur et son œuvre. Eh bien, le droit consacre l'existence de ce lien et en fait le caractérise par ses droits moraux. Et ce lien, jamais ce lien n'est coupé. Le droit en rend compte, le droit moral en rend compte. Le droit moral est imprescriptible, il est incessible. Donc, il est, au fond, il faudra que les exploitants de l'œuvre fassent avec. Et les problèmes peuvent naître avec un auteur un peu grincheux qui voudrait toujours pouvoir intervenir sur son œuvre, exercer son droit moral, alors que, par ailleurs, les droits patrimoniaux ont été cédés. Alors, pour le reste, les droits patrimoniaux, à côté des droits moraux, ces droits patrimoniaux, ce sont des droits qui ont été conçus, et c'est la première chose que l'on demande sans doute au droit d'auteur, c'est que le droit d'auteur doit faire vivre l'auteur, doit permettre à l'auteur de vivre. Et par conséquent, ces droits patrimoniaux, le Code les évoque à l'article L122.1, les désigne comme le droit d'exploitation, qui comprend le droit de reproduction et le droit de représentation, dont je parlerai un petit peu plus loin. Alors, ces droits patrimoniaux, là encore ça a été dit ce matin, ont une durée limitée, assez longue mais limitée, toute la vie de l'auteur, plus 70 ans après ça. Alors, l'interaction, le mot est fort sans doute, mais les risques de conflit entre donc celui qui est l'auteur demeuré titulaire du droit moral et puis le titulaire, celui qui a acquis les droits patrimoniaux. On peut songer à une difficulté liée à l'une des prérogatives du droit moral qui est le droit à la paternité. Le droit à la paternité, là encore je redis des choses qui ont été vues ce matin, c'est la possibilité, le droit pour l'auteur de mentionner son nom et que son nom soit apposé sur l'œuvre, son nom, ses qualités. C'est aussi le droit pour l'auteur de voir de rendre une œuvre anonyme, c'est-à-dire que son nom ne figure pas sur sur l'œuvre. Et ça, l'éditeur ne peut pas aller contre cette idée. Il ne pourrait pas, alors qu'il se voit livrer une œuvre anonyme, ne pourrait pas ajouter le nom au motif, par exemple, que ça serait une publicité de voir ce nom associé. Si l'auteur ne le souhaite pas, l'éditeur ou le co-contractant de l'auteur ne le pourrait pas. Donc voilà un risque de conflit assez mince, mais tout de même qui peut exister. On peut aussi envisager une autre prérogative du droit moral, et un autre conflit possible, c'est le droit au respect de la création. Et ça, c'est un point qu'on trouve souvent dans la jurisprudence, c'est-à-dire que celui qui a acquis les droits a le sentiment qu'à partir de là, dès lors qu'il a payé à l'auteur, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut de l'œuvre, il peut l'exploiter, la modifier. Alors, évidemment, ça irait contre le droit au respect de la création. En effet, le titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre ne peut pas, même s'il a de bonnes raisons de le faire, s'il trouve utile de le faire, ne peut pas couper une partie de l'œuvre, de couper une partie, supprimer une partie du cours au motif que c'était un peu long. Ajouter un exemple parce qu'il trouve que ce passage n'est pas suffisamment clair. Supprimer un exemple, peut-être s'il s'agit de numérique, d'ajouter un lien hypertexte. Tout ça doit évidemment, je sais pas si la question peut se poser dans ce qui nous concerne, mais il faut l'accord de l'auteur, un accord préalable, pour apporter des modifications de cette nature à l'œuvre qui a été remise au co-contractant de cet auteur. On pourrait aussi envisager une autre forme de difficulté ou de conflit. C'est Pourtant, une prérogative du droit moral qui n'est jamais mise en œuvre en pratique, c'est le droit au retrait, droit au repentir, retrait et repentir. C'est-à-dire, c'est l'idée que, on retrouve cette prérogative évoquée à l'article L121.4 du Code de la propriété intellectuelle, c'est l'idée que l'auteur, alors qu'il a déjà divulgué son œuvre, il a accepté que son œuvre soit diffusée, puis finalement, il a des regrets, il trouve que le cours est plus tellement en phase avec ses idées, que tout ça est moyen, que ça finit par rejaillir sur son image, que bref, il n'en dort plus. Et deux choses, il veut modifier l'œuvre pour l'actualiser, pour ajouter des exemples, pour supprimer des passages. Là, il exerce cette prérogative qui est le repentir. Ou alors, de manière beaucoup plus radicale, il décide qu'il faut que ça cesse, malgré le contrat qu'il a conclu, malgré l'acquisition par son co-contractant des droits, il dit « c'est fini, je veux que l'on retire le cours en vertu de mon droit au retrait de l'œuvre ». Alors, tout ça, en pratique, est souvent théorique parce que il y a une condition préalable à l'exercice de ces prérogatives qui est que, certes, c'est possible, certes, le co-contractant pourrait pas s'y opposer, mais il peut subir un dommage. Et alors, il faut que l'auteur, qui manifeste le désir d'exercer ce droit de retrait, de repentir, indemnise le co-contractant du dommage qu'il subit. Bon, ça, on comprend bien, le montant des dommages peut être tellement important que ça en est dissuasif lorsqu'il s'agit d'exemplaires papier. Tous ces exemplaires qui ont été fabriqués, qui pourront pas être vendus parce que l'auteur manifeste des regrets. Mais peut-être est-ce plus la mise en œuvre de ces prérogatives est-elle plus facile, plus favorable lorsqu'il s'agit d'une édition numérique ou en tout cas d'un élément qui peut-être plus facilement, qui suppose pas la fabrication d'exemplaires. Bon, c'est des hypothèses de conflit qui peuvent peut-être surgir. Alors. Voilà, à grands traits, le premier aspect. Je voudrais zoomer sur un certain nombre de... Enfin, sur les droits à acquérir, précisément, acquisition, mais acquisition de quoi? Alors, bien sûr, ça ne concerne que les droits patrimoniaux, mais même les droits patrimoniaux, il y a des aspects, au sein de la matière patrimoniale, il y a des aspects qui... n'ont pas besoin d'être acquis parce qu'ils sont libres. Alors, je ne veux pas empiéter sur l'exposé qui sera fait plus loin, un peu plus tard. Il y a des usages qui sont réservés et il y en a d'autres qui sont libres. Alors, je voudrais les présenter et en donnant quelques exemples qui permettent peut-être de donner des applications dans ce qui nous intéresse. D'abord, des usages réservés. Vous le savez... l'auteur peut autoriser, contre rémunération, que son œuvre soit reproduite, qu'on en fasse des exemplaires. Et on a, et c'est l'auteur qui a un droit sur la reproduction de ces exemplaires, et ce droit est un droit exclusif. Il est le seul à en décider. Et c'est parce qu'il peut donner son accord, il peut aussi tout autant donner, refuser. Et c'est parce qu'il peut refuser que, quand il donne son accord, il peut soumettre son accord au paiement. Alors, ce droit de reproduction, qui figure à l'article L122.3, doit être acquis par celui qui entend reproduire. C'est la même chose, de manière un peu symétrique, avec le droit de représentation. Cette fois, ce sont d'autres formes d'utilisation de l'œuvre qui sont en cause. La représentation, c'est par exemple... le fait de filmer une œuvre architecturale, de photographier des œuvres et surtout de les diffuser. Hein. Certes, il y a une première, on saisit l'œuvre, mais on la diffuse. C'est le fait de réciter un poème en public. C'est un certain nombre de manières, d'autres manières de tirer une utilité de l'œuvre. Là encore, l'auteur se voit reconnaître un droit exclusif, sur les exploitations de cette nature, sur la représentation de son œuvre. Alors, de manière plus précise, on s'interroge sur la relation qui s'établit entre l'auteur et celui qui acquiert le cours, l'UNT, une université, Mais il y a une phase qui précède de manière chronologique. Il faut que l'auteur construise son cours. Et il peut arriver que l'auteur, dans l'articulation de son cours, fasse une œuvre, comme ça a été dit ce matin, mais qu'il saisisse ou qu'il intègre dans son cours des pièces dont il n'est pas l'auteur. Il va offrir à l'UNT un cours qui est en partie de lui, mais qui a aussi quelques éléments qui ont été pris ici ou là. Par exemple, voilà dans un cours de langue que l'enseignant envisage de la traduction d'une œuvre, une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur, qui n'est pas l'œuvre de ce professeur qui fait le cours, mais une œuvre qui est prise et qui est traduite, et le cours s'articule autour de ça. Ou l'idée qu'un cours sur l'art contemporain, et l'on viendrait représenter des œuvres pour illustrer ce cours. Un cours de lettres avec des reproductions de textes, de poèmes. Un cours de musique et reproduction de partitions. On peut multiplier évidemment les exemples. Un cours d'économie et on voit que l'enseignant va chercher ici ou là des graphiques, des présentations qui ne sont pas de lui. Ou évidemment un cours de droit avec des analyses qui sont celles d'un autre collègue, un professeur qui vient commenter une décision de justice, et tout ça est intégré dans le cours. Alors, évidemment, ça pose une difficulté dont on parlera un petit peu plus loin encore, c'est que il faudra sans doute, me semble-t-il, alerter les auteurs qui construisent un cours sur le besoin et la nécessité de livrer un produit, entre guillemets, un produit propre, c'est-à-dire en ayant bien à l'esprit que ils vont transférer une matière qui n'est pas exclusivement de leur composition. Donc là, c'est un point, me semble-t-il, important à signaler, davantage peut-être dans la relation qui précède le contrat et la cession qui s'opère entre l'auteur et l'UNT ou l'université. À côté de ces usages réservés, il y a des usages libres. Là, je ne vais pas développer cette question parce qu'il va y avoir un exposé, je l'ai dit, sur l'exception pédagogique. Mais néanmoins, il y a au titre du droit d'auteur un certain nombre d'autres exceptions qui pourraient trouver ici à s'appliquer, c'est-à-dire des hypothèses où le législateur a considéré que les tiers avaient toute liberté pour, sous certaines conditions, utiliser l'œuvre. Ce qui peut nous intéresser, bien sûr, c'est la question des analyses et courtes citations. Là, l'auteur a la possibilité, en respectant les dispositions de l'article L122.5, troisièmement, la possibilité de citer, à condition que la citation soit courte, à condition que l'auteur de du texte qui est cité, ou si c'est un texte, l'auteur du texte qui est cité soit lui-même mentionné, que la source soit indiquée, ce qui veut dire aussi que au moment de l'édition, au moment de la présentation du cours, on n'est pas, parfois il arrive que certains éditeurs souhaitent simplifier la manière dont on cite d'autres auteurs, parfois même on dit on n'a pas besoin, on ne veut pas de notes de bas de page ou on ne veut pas de ces choses-là parce que ça alourdit, sauf que c'est une des conditions pour que la citation, la courte citation soit admise. Alors, ce sont des usages libres. Je pense à d'autres formes d'usages libres, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de faire l'objet, qui n'ont pas besoin d'être cédés, qui ne posent pas de difficultés. C'est un certain nombre d'utilisations qui sortent un peu du droit d'auteur. Par exemple, imaginons un cours de marketing et l'enseignant propose des cas et en même temps il cite des marques qui ont été déposées, qui sont des marques en vigueur. Alors est-ce qu'il le peut ? Est-ce que ces marques qui sont protégées, est-ce que le titulaire des marques peut trouver, prendre ombrage et trouver que l'auteur excède ses droits ? Alors la réponse, sans aller trop loin dans les explications, mais la réponse est que c'est possible pour un auteur d'intégrer des marques, de citer des marques, sans porter atteinte au titulaire des droits sur la marque. La même question pourrait se poser dans un cours, par exemple un cours de mécanique ou un cours de biologie, avec un enseignant qui, pour illustrer ses propos, pour expliquer une invention, s'appuie sur des brevets qui ont été déposés. Alors, je ne sais pas si ça peut se présenter, mais on peut envisager que l'enseignant s'appuie sur cette invention qui vient d'être faite. Est-ce qu'il le peut ? Alors, il y a deux questions qui peuvent se poser rapidement. D'abord, l'invention en elle-même pourrait, dès lors que on n'est pas dans une logique industrielle et dans une logique de mise en œuvre de l'invention, on peut reproduire cette invention et exposer cette invention à des étudiants. Mais il faut compléter à propos des brevets, l'auteur du cours ne peut pas librement reproduire la description de l'invention. Le fascicule qui complète l'invention ne peut pas être reproduit lui-même, et ce texte est protégé par le droit d'auteur, et alors il faudrait en théorie obtenir les droits de celui qui a rédigé cette invention. On peut multiplier les questions, notamment un cours d'architecture, et l'on voit alors l'enseignant proposer des photos de bâtiments, même des bâtiments anciens, sans parler même d'activer le droit d'auteur. Il y a eu pendant une période la Cour de cassation a considéré qu'il y avait un droit pour le propriétaire à s'opposer à l'exploitation commerciale des photos de son immeuble. Aujourd'hui, la question semble un peu le souffler est retombé, mais autant de questions qui peuvent peut-être se poser. Puis enfin, dernier exemple, est-ce qu'il est libre, et est-ce que ça n'engage pas la responsabilité de, on a parlé de ça un petit peu ce matin, de diffuser un cours qui inclut des liens hypertextes qui dirigeraient vers des sites web, des sites soit au contenu discutable, soit même simplement des sites qui présentent de la publicité. Est-ce que c'est conforme ? Bon, il y a peut-être là un risque de responsabilité qui, selon les cas, pourrait exposer le co-contractant de l'auteur. Alors, donc, l'idée, c'était que, dans cette première partie, de montrer que, certes, les droits de reproduction, droits de représentation, c'est l'objet du contrat, mais il y a à s'intéresser à ce que l'auteur lui-même a construit, comment il l'a construit, est-il titulaire des droits, est-ce qu'il, lorsqu'il livre son cours, est-ce qu'il a parfaitement réglé toutes les questions d'atteinte à des droits antérieurs ou à des droits appartenant à des tiers. Alors maintenant, la deuxième partie de l'exposé concerne comment, c'est-à-dire la forme du contrat, le contenu du contrat. Alors d'abord, même méthode, un plan large, quelques principes. Les contrats qui peuvent nous intéresser sont des contrats, il y a d'abord un contrat, le contrat de commande. Alors ça a été dit tout à l'heure, le contrat de commande, c'est ce contrat par lequel une personne, le commanditaire, commande un cours, commande une œuvre à un auteur. Ce contrat à proprement parler n'emporte pas transfert des droits, et il faut faire attention, parce que cette idée est assez répandue, consistera à penser que dès lors que l'on a acquitté un prix, dès lors que l'on a versé une rémunération à l'auteur, en vertu de ce contrat de commande, le commanditaire serait ipso facto devenu titulaire des droits. Non. S'il s'agit simplement d'un contrat de commande, il n'y a pas de transfert de droits opéré, et donc ça expose celui qui viendrait à exploiter la création d'une manière publique. Alors, le contrat de commande doit être complété par une cession, c'est alors la cession qui envisage les modes d'exploitation de cette œuvre qui vient d'être commandée. Donc il y a généralement ces deux contrats, le contrat de commande, le contrat de cession, qui d'ailleurs peuvent figurer dans un seul document. C'est le cas de ce contrat que j'ai étudié et qui est dans le qui figure dans les classeurs. Alors, les principes généraux qui gouvernent les contrats, ces contrats qui sont conclus avec les auteurs, il y a des principes qui viennent du droit d'auteur et il y a des principes qui viennent tout simplement du droit des contrats. D'abord, les principes issus du droit d'auteur et qui impriment leur marque sur le contrat, c'est d'abord que le législateur, le code de la propriété intellectuelle, a voulu que ces auteurs soient placés sous très haute protection. Il y a un parti pris qui consiste à considérer que l'auteur est une personne faible et qu'il y a lieu de la protéger, que par conséquent tout contrat qui viendrait devant le juge et qui paraîtrait peu clair serait naturellement interprété en faveur de l'auteur. Donc c'est une condition ou c'est une raison supplémentaire pour que les contrats soient rédigés de manière très précise. Il y a un autre principe important à signaler qui vient cette fois du droit des contrats, de la vente, c'est que nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a. Autrement dit, quand, et ça rejoint le développement que je tenais dans la première partie, l'auteur qui transfère ses droits à l'UNT ou à une autre partie, ne peut transférer que ce dont il est réellement titulaire, c'est-à-dire les droits sur sa propre création. Si dans son cours il intègre un certain nombre de pièces qui sont des pièces rapportées sur lesquelles il n'a pas de droit, évidemment il ne les transfère pas. Et alors on se retrouve dans une situation où il expose aussi l'UNT. Mais c'est surtout, que je voudrais dire aussi, l'hypothèse d'un auteur qui aurait déjà cédé des droits sur un cours à travers par exemple un manuel qu'il a rédigé, et il serait lié sur ce cours, enfin, qui s'appelle peut-être pas un cours, qui peut être un manuel, un traité, il est lié avec un éditeur et le contrat avec l'éditeur stipule que les droits sont cédés à l'éditeur pour des exemplaires papier, mais aussi pour toute utilisation de nature de type numérique, et que son contrat a déjà investi un éditeur classique, et qu'il, parce qu'il n'aperçoit pas d'exploitation en matière numérique, ne pense pas que, ne se trouve pas gêné par cette clause, et vient à conclure pour le même objet, pour un cours qui est très proche, une création qui est très proche, viendrait à conclure avec l'UNT ou avec une université. Il y a une difficulté là, il faut que l'auteur soit très vigilant. Qu'a-t-il déjà signé ? Il faut qu'il soit au clair avec les engagements qu'il a déjà pris avec des éditeurs plus classiques pour ne pas céder des droits qu'il a déjà cédés et donc qui, là encore, ferait naître des difficultés. Alors, pour finir sur quelques dispositions contractuelles essentielles, la rémunération, évidemment, c'est un point essentiel, mais ça a déjà été traité. Le contenu du contrat, il faut d'abord s'en remettre à l'article L131.3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dit bien que, de manière très claire, que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination, quant au lieu, quant à sa durée, quant à la durée. On veut dire par là que toutes les formes d'exploitation de l'œuvre qui sont envisagées par le co-contractant doivent figurer dans le contrat. La durée, pour combien de temps ? L'étendue territoriale. Au fond, on a tout à gagner, le co-contractant de l'auteur, a tout à gagner à la précision du contrat. Comme je le disais tout à l'heure, s'il y a un doute sur la manière d'interpréter, s'il y a un doute sur une clause, le contrat sera interprété de manière favorable à l'auteur. Donc il y a il faut être particulièrement méticuleux sur la rédaction de cette clause et évidemment bannir toutes les clauses générales du type tous les droits sont cédés pour tous les territoires sont de manière un peu rapide. Alors on disait c'est un peu curieux de devoir décliner quand on dit tous les droits sont cédés, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, mais il faut être plus précis que ça. C'est une condition importante de validité de l'opération. Et puis, dernière disposition importante sur le fond, c'est qui figure d'ailleurs dans les contrats qui sont dans le classeur, c'est l'obligation de garantie du cédant. Alors, cette obligation de garantie du cédant, ça signifie quoi? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. D'abord, c'est une vente, c'est une cession. Donc, il y a bien, dans toute vente, il y a des obligations pour le vendeur et notamment une obligation de garantie. Ici, ça signifie que lorsque l'auteur cède ses droits, il garantit qu'il en est titulaire et ça pose une difficulté quand son cours est composé d'éléments qu'il n'a pas lui-même construits, qu'il n'a pas lui-même réalisés, des photos, on a parlé de ça ce matin, des photos qui sont puisées ici ou là, ou d'autres éléments. Évidemment, le co-contractant de l'auteur, si on en arrivait là, il ne faut pas souhaiter qu'on en arrive là, mais s'il y avait une action d'un tiers protestant qui viendrait protester parce que on porte atteinte à ses droits, l'UNT aurait alors la possibilité de se diriger vers l'auteur pour lui demander des comptes et lui demander de garantir le cédant d'une éventuelle condamnation. Donc, voilà très simplement ce que je voulais dire, peut-être en mettant l'accent sur les précautions et les avertissements à rappeler aux auteurs qui travaillent et qui vont fournir un cours, une œuvre au sens du droit d'auteur à leurs co-contractants.
Merci, Jean-Pierre. Bien protégé, mais Jean-Pierre, vous l'avez déjà abordé, surtout dans la deuxième partie de votre intervention. Comment protéger l'UNT? Comment faire en sorte qu'on ait des contrats de cession bien faits? C'est souvent une question qui est posée. Alors, je pense que ce serait peut-être bien qu'autour de la table, on puisse faire un état des problèmes, des difficultés qu'on rencontre pour la rédaction des contrats, pour la mise en place des contrats avec les auteurs. Je crois que, Emmanuel, vous avez plusieurs fois, vous êtes intervenu à des réunions sur ce point. Est-ce que vous voulez commencer? On va vous passer un micro parce qu'il faut qu'on puisse vous entendre.
Celui-ci.
Et surtout, vous soyez enregistré.
Merci. Tout d'abord, à propos, en préalable, à propos de la terminologie sur les droits d'auteur, les droits d'exploitation, les droits de représentation, etc. Il m'est arrivé une seule fois, mais je ne sais pas si c'est un cas, une anecdote à part ou pas, mais d'être en face d'un enseignant chercheur, donc de négocier avec lui, qui était d'accord pour céder ses droits d'exploitation, mais pas ses droits d'auteur. Et il était difficile de lui faire entendre que c'était la même chose, puisqu'il était d'accord pour l'utilisation qu'on voulait en faire, mais je pense que derrière le terme droit d'auteur et cession de droit d'auteur, il y a toute une symbolique qui est particulièrement forte, d'autant plus pour les enseignants. Et donc il y a vraiment, véritablement, en tout cas moi, dans le travail de négociation que j'ai pu avoir à faire, à rassurer l'enseignant sur ce qu'il cède, et sur, comme ça vient d'être dit, le fait que il garde l'entièreté, enfin le droit moral ne le cède pas, et que même sur les droits patrimoniaux, surtout dans le cas d'Onège, où nous, la durée est limitée à 15 ans, enfin je vais revenir dessus, il ne cède qu'une partie des droits patrimoniaux, qui est nécessaire pour l'utilisation. Et puis l'autre chose aussi que je voulais préciser, c'est à propos de la signature du contrat, la nécessité, en tout cas dans le cas d'Onège, c'est un contrat de cession des droits entre l'université, l'établissement producteur, ou comme le disait Michel Arma tout à l'heure, l'établissement producteur délégué dans le cas d'une coproduction, et l'enseignant-chercheur ou les enseignants-chercheurs. Enfin, dans ces cas-là, on fait un contrat par enseignant-chercheur, on précise quel chapitre a été rédigé par l'un par l'autre. Dans ce cadre-là, effectivement, il est très important que ce soit le président de l'université et non pas un responsable de service-tis ou autre qui signe le contrat. Voilà. Alors, à propos des clauses qu'on a mis en place, importantes qu'on a mis en place dans le contrat ONEJ, moi, ce qui me semble important, c'est la notion de grain pédagogique qu'on a donc pris ce soin de définir. Tout d'abord, en préalable du contrat, il y a une définition claire de quelle est la contribution de l'auteur et de la distinguer de l'œuvre multimédia finale. Quelles sont donc la notion des grains pédagogiques, de quoi il s'agit. Donc nous on l'a défini comme la plus petite unité pédagogique en mettant des exemples, vidéos, leçons, chapitres, etc. Et d'identifier pour chaque cours, par exemple, quand il s'agit d'un cours, hein, s'il s'agit d'une micro-ressource, il en va autrement, d'identifier ces grains. Donc, par exemple, s'il s'agit d'un cours de 8 leçons, de dire qu'il y a 8 leçons, qu'il y a 7 cas pratiques, qu'il y a, etc. Et donc l'enseignant-chercheur, l'auteur en signant le contrat, sait qu'il autorise l'université à, dans le cadre d'ONEJ, c'est l'université qui signe, mais en préalable on dit que le périmètre c'est ONEJ, il autorise donc à ce que ces grains soient utilisés indépendamment du cours dans son ensemble. Donc voilà comment on a réglé la question de la granularité des cours. L'autre question, donc pour la durée, dans le cas d'ONEJ, on a établi la durée de la session à 15 ans. Ça nous paraissait être être largement suffisant, sachant qu'on prévoit aussi une clause de mise à jour où l'enseignant s'engage à mettre lui-même à jour son cours ou en tout cas à être d'accord pour que ce soit un autre qui le fasse si jamais lui se désistait et où il cède automatiquement les droits d'auteur sur les mises à jour. Je reviendrai après sur la question des autorisations où là aussi j'aurai quelques petites choses à dire, mais je laisse la parole aux autres.
Jean-Pierre, est-ce que vous voulez déjà réagir à ce que vous avez entendu?
Non, il n'y a pas de questions. C'était pas des questions. C'était pas des questions.
Non, mais sur les pratiques.
Je crois que sur la première partie de la réflexion, là, c'est que certains enseignants peuvent hésiter parce qu'ils veulent bien céder, mais pas céder leurs droits d'auteur. Alors, je crois qu'il faut peut-être un peu dédramatiser aussi les choses. C'est-à-dire, faut les expliquer, dire simplement il y a une charge très forte autour du mot droit moral, cession des droits, le copyright, la contrefaçon, tout ça peut faire très peur. Mais si on explique simplement les choses, ce que l'on fera avec le cours, comment il sera présenté, je crois qu'il n'y a plus tellement, les gens savent bien ce que ça veut dire, on règle pratiquement tous les mauvais réflexes et toutes les inquiétudes.
Je crois qu'il faut bien expliquer.
Alors, Jean-François Lemaitre.
Oui, j'ai à la fois signé des contrats comme auteur, mais surtout j'ai rédigé des contrats comme représentant de ma présidente de l'université que j'engageais dans cette affaire, puisque moi, je ne m'engage pas. Moi, je la fais signer elle. Et ce qui est plus prudent. À chaque fois, c'est quel type de risque je lui faisais prendre. Et je pense que sur un certain nombre des contrats, j'ai dû lui en faire prendre, mais je ne sais pas de quelle nature ils sont, parce que celle qui a le plus résisté à mes contrats, à mes propositions de contrat, c'était une juriste, directrice de l'IOJ, et qui ne m'a jamais dit pourquoi elle était réticente à signer le contrat. Voilà. Donc elle m'a rendu du tournant, comme le font chacun des juristes à cette table depuis ce matin. J'ai retrouvé dans ce qu'a dit le professeur Clavier l'ensemble des problèmes que j'avais rencontrés et d'interrogations que j'avais. D'abord, alors je les prends dans le désordre et pas complètement, puis je finirai par une question qui n'a pas été abordée, enfin je n'ai pas entendu qu'elle est abordée, qui me paraît plus fondamentale, qui me paraît plus nouvelle. D'abord sur l'aléa de moralité que fait peser la possibilité qu'a l'auteur de refuser d'actualiser, de se retirer. Hein, vous avez parlé du droit de retrait. Alors il y a l'indemnisation, mais on ne l'a fait jamais jouer parce que c'est beaucoup trop lourd. Et donc on engage les UNT ou les universités engagent des fonds dans la production de ressources numériques et se trouvent dépendants d'un comportement opportuniste qui peut être celui de l'auteur. Et on n'a pas de vrai, j'ai pas trouvé de vraie protection contre cela. Hein. Et dans le fond, ce que vous avez dit tout à l'heure, je pose la question de façon nuancée, c'est trahir, hein, disait un ancien ministre de l'Éducation nationale. Donc je vais dire les choses comme je l'ai dit et comme ça facilitera la réponse. Mais finalement, je me dis, mais si il me plante au bout d'un an parce qu'il refuse d'actualiser le contrat, je ne peux pas réutiliser, ou j'ai des difficultés à réutiliser ce qu'il a produit. Et donc j'ai perdu ma mise. J'ai perdu ma mise. Voilà. Alors ça, c'est une première question qui m'a préoccupé assez souvent et qui fait peser un risque économique plus qu'autre, mais un risque économique quand même sur le... Le deuxième, je reprends dans l'ordre où je les ai notés, ce sont les ressources inscrites dans la création. Alors vous avez parlé des cas. Moi je suis professeur en sciences de gestion. Et alors dans ma spécialité on n'utilise pas beaucoup les cas, mais en marketing on les utilise beaucoup. Et l'image, le droit à l'image de celui qui sert de support au cas, de l'entreprise qui sert de support au cas. Je sais que le CNRS, des chercheurs du CNRS ont eu des problèmes avec des enquêtes qu'ils avaient faites, au départ d'ailleurs avec l'acquiescement des entreprises concernées, sur la publication des résultats qu'ils ont donnés, même quand la publication présentait l'entreprise sous un jour favorable. Une entreprise qui avait failli être mise en cessation de paiement, qui a redressé la situation, on la cite comme bon exemple. Et puis ils disent, mais vous nuisez à notre image en disant que, en affirmant que vous avez, que nous avons failli être mis en cessation de paiement. Et donc, voilà. Donc, comment fait-on? Alors, il faut demander l'autorisation. Quand c'est un gros cas, on demande l'autorisation, c'est le plus simple. Mais en fait, c'est pas évident du tout d'inclure ce type de document. De la même façon, l'inclusion de documents, les exercices. Hein. Moi, j'ai un souvenir. Je le raconte dans une minute. J'étais dans un amphithéâtre en train de surveiller un examen, l'examen d'un collègue, parce que les effectifs étaient assez nombreux, c'était à Nanterre. Et un étudiant lève le doigt et me dit, monsieur, je n'arrive pas à faire l'exercice. C'était un exercice de microéconomie, et ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, il y avait une erreur de signe dans l'énoncé. Bon. Donc je leur dis, il y a une erreur de signe dans l'énoncé, ça peut arriver à la dactylographie, puis je le fais porter dans les autres amphithéâtres. Et je vois l'auteur de l'énoncé, je dis, t'as fait une erreur de signe dans l'énoncé. Il me dit, je l'ai pompé dans un bouquin. Donc je vérifie dans le bouquin, l'erreur d'énoncé y était aussi. Et puis donc je demande à l'auteur que je connaissais du bouquin, il me dit, ah ben je l'ai pompé dans un troisième ouvrage. Voilà, je suis pas allé plus loin, mais... voilà, donc on ne sait pas ce qu'on met. On ne sait pas ce qu'on met dedans, et on ne peut pas tout vérifier. Hein, on peut pas tout vérifier. Et parfois, l'auteur, enfin, ça a été répété depuis tout à l'heure par beaucoup d'entre nous, ça consiste à recycler sans cesse les mêmes cas ou les mêmes exercices. On va pas réinventer les exercices à chaque fois. Ce que je veux dire, c'est que on peut traîner une erreur ou on peut traîner un exercice sans s'en rendre compte. Enfin, le dernier point pour être bref, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais ONEJ essaie de produire et de mettre sur Internet des ressources appropriables par des utilisateurs. C'est-à-dire que la vocation des ressources que nous créons, c'est d'être pris par des enseignants, tuteurs ou enseignants en présence, et d'être remalaxés à leur façon, comme on le fait d'un article, et donc d'être réintégrés dans un cadre nouveau. Or, ce que j'ai entendu de la session de droit d'auteur ne me rassure pas du tout sur la possibilité que nous avons de faire ça. Et donc, je pensais venir me tranquilliser l'esprit. Voilà. Je prends ma retraite dans 2 mois, donc c'est bon, ça tombe très bien. mais c'est plus sage. Mais voilà, hein, donc vous ne m'avez pas rassuré du tout. Alors je vous accuse de m'avoir vendu du tourment.
Jean-Pierre, est-ce qu'on peut répondre rapidement? Puis j'aimerais qu'ensuite on voit nos collègues scientifiques, Isabelle Ramad qui est là, qu'elle nous dise les difficultés qu'elle rencontre. Mais voulez-vous faire à Jean-François Lemaître quelques...
Voilà, moi j'ai identifié trois questions. D'abord, la question de la mise perdue du risque économique lié à cet auteur qui aurait d'abord donné son accord, puis qui revient sur son accord. Est-ce qu'on peut se protéger contre ça? L'idée, non, parce que... en théorie, non, parce que c'est précisément un droit qu'on accorde à l'auteur. Alors, on ne peut pas en mettre en face une prérogative qui empêcherait de l'exercice. Mais... d'abord, on n'a pas beaucoup d'exemples dans la jurisprudence, parce que quand vous dites qu'il y a un risque économique, le risque économique, il doit être supporté, là encore, en théorie, par l'auteur qui souhaite exercer cette prérogative. Le système repose au fond sur l'idée que, oui, vous êtes auteur, oui, vous avez un certain nombre de possibilités, mais pas au point de mettre en péril, ou en tout cas de faire peser vos regrets sur le partenaire. Donc, en préalable, vous avez dit, nous, on ne prendra pas d'initiative, on ne fera pas payer l'auteur. Alors, la protection, c'est ça. C'est de lui dire, il faut aller au bout de la logique qui consiste à assumer les conséquences économiques de l'exercice d'un droit, le droit de retrait ou de repentir. Et peut-être ça dissuaderait le... Là, c'est...
Pour envoyer un signal.
Oui, je crois que... de manière générale, en propriété intellectuelle, c'est sans doute vrai autrement, je crois qu'il faut être complètement transparent avant la signature du contrat, en disant voilà le projet, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce que, en qualité d'auteur, vous avez la possibilité d'exercer ultérieurement. Il faut pas cacher ces choses-là, faut pas espérer que l'auteur n'y verra rien, qu'on fera... Non, faut dire voilà les choses. Voilà ce que, un moment ou un autre, vous pourrez peut-être exprimer des regrets et faire jouer vos prérogatives, mais voilà les conditions. Voilà. Je crois que si on est complètement transparent sur tout le droit d'auteur, sur tout ce qui implique, on règle presque tous les problèmes. Sur les ressources. Vous dites, on peut pas recycler tout le temps, on recycle et on peut pas créer tout le temps. Alors. Ça me conduit à peut-être revenir sur ce qui a été dit ce matin, j'étais pas là en début de matinée, mais le droit d'auteur ne saisit pas les idées, ne saisit pas la matière. C'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer un cas qui, au fond, met en œuvre à peu près les mêmes mécanismes, les mêmes idées, mais vous allez le présenter différemment. Le droit d'auteur saisit la manière dont vous dites les choses. L'originalité s'attache à la manière dont vous exprimez les choses. Parce que, évidemment, le premier cours de droit ayant été fait, il n'y aurait plus aucune possibilité pour les autres. Ça veut dire que il y a mille manières de dire les choses, avec comme point de départ les mêmes idées. Et donc, il faut... Évidemment, si on veut livrer une œuvre sans empiéter sur des droits appartenant à des tiers, il faut reconstruire, il faut représenter les choses d'une manière différente, il faut se réapproprier les cas pour éviter ce genre de difficultés. La troisième question, j'ai oublié ce que c'était, je n'ai pas noté. Oui, mais alors, il faut que l'auteur accepte que son œuvre soit exploitée comme ça. Il faut qu'il l'accepte dès le départ. Quand on est propriétaire, si vous êtes propriétaire d'une voiture, vous pouvez très bien la fermer à clé et interdire tout le monde, à quiconque, de l'utiliser. Mais parce que vous êtes propriétaire, vous pouvez très bien laisser les portières ouvertes et la clé dessus et permettre à n'importe qui de s'en servir. C'est parce qu'on est propriétaire, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est le propriétaire, le titulaire des droits, a la possibilité de les exprimer d'une manière tout à fait... simplement, faut qu'il en ait conscience, faut qu'il soit d'accord que, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, là. J'ai un doute en voyant votre regard là. Qui...
Je voudrais qu'Isabelle Ramad puisse aussi s'exprimer, puis on demandera à Serge Bory de faire des commentaires sur ce qu'il a entendu, s'il veut bien.
Merci. Bonjour. Donc je remplace au pied levé Monique Van Vogel qui a eu un empêchement de dernière minute, donc pour une initiale. Donc je voudrais d'abord souligner deux éléments de contexte qui s'appliquent à la communauté scientifique. Parce que j'ai perçu de tout ce qui s'est dit depuis ce matin que les pratiques des différentes communautés pouvaient être un peu différentes, ou les sensibilités. Donc la communauté scientifique, comme vous le savez, est plutôt dans une logique de partage, de réutilisation des contenus, est très impliquée dans le mouvement des archives ouvertes, et donc de libre accès au savoir. Vous êtes peut-être au courant du fait que le MIT a mis massivement en ligne des quantités de cours. Et donc voilà, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que pour faire des cours en sciences, on a besoin d'énormément d'illustrations, donc de schémas, de photos. Pour des cours sous forme numérique, hein, se rajoutent des animations vectorielles, des simulations, des vidéos. Donc ce type d'éléments médias ou multimédia. Donc ces deux éléments peuvent expliquer les problèmes qu'on peut rencontrer et aussi les choix qui ont été faits à Uniciel et les choix des types de conventions avec les établissements partenaires. Donc, par rapport à ce problème d'images qui sont incluses dans les cours, il est évident qu'il faut s'assurer auprès des auteurs, soit qu'ils ont les droits sur les images, soit mettre en œuvre des mécanismes pour trouver des images de substitution. Et pour nous, c'est un énorme obstacle. C'est-à-dire que même si les enseignants sont prêts à mettre en ligne leurs cours, en général, ils ont conscience qu'ils ont récupéré des images à droite à gauche, via Google Images ou autre. Et donc, ils savent que tant que ça reste au niveau du cercle de leurs étudiants, certes, c'est pas légal, mais ça ne se sait pas trop. À partir du moment où on s'est mis en ligne sur Internet, on peut avoir des soucis. Voilà, donc on est parfaitement conscient de ça au niveau des établissements et au niveau d'Uniciel. Et donc, il faut régler ce problème, effectivement, par des demandes de droits ou des images de substitution. Et ça explique qu'à l'avenir, on aimerait bien éviter d'avoir à remplir des formulaires de demande qui alourdissent les procédures pour développer les ressources. Et donc, inciter des enseignants à utiliser des ressources soit libre de droit, soit sous des licences libres, c'est pas tout à fait la même chose. Et également, financer la production de ressources qui sont elles-mêmes justement sous des licences libres pour favoriser la réutilisation. Ces deux éléments expliquent les choix faits par Uniciel. Donc d'une part, les ressources qui sont produites par Uniciel sont mises en libre accès sur le portail d'Uniciel, à l'exception de quelques ressources qui sont des images non contextualisées d'un point de vue pédagogique, hein, qui sont un peu brutes et qui sont destinées aux enseignants des établissements partenaires, mais vraiment la quasi-totalité des ressources est en libre accès pour tout internaute. Et par ailleurs, donc Uniciel finance sur des appels à projets la réalisation de ressources numériques nouvelles, et elle insiste beaucoup, c'est même des critères pour la sélection des projets retenus, sur la sécabilité des œuvres, sur la possibilité de réutiliser des parties des œuvres, donc des éléments granulaires, pour les insérer ensuite dans d'autres cours. Donc la possibilité pour un enseignant ultérieur, non encore déterminé, membre ou pas des établissements partenaires, de réutiliser des morceaux, donc des grains, des œuvres qui auront été financées par Uniciel. Et Uniciel finance aussi directement la réalisation de grains, donc d'éléments multimédia, donc d'animation, flash, ce genre de choses, qui pourraient être facilement insérées dans un cours, dans un diaporama, etc. Donc Uniciel insiste sur la possibilité aussi de modifier les ressources pour les adapter à des besoins particuliers par rapport à un groupe d'étudiants donné. Et finalement, pour éviter que ultérieurement des utilisateurs potentiels, enseignants, aient besoin de faire une demande de cession de droit à Uniciel ou aux établissements porteurs des projets, ce qui a été choisi, c'est qu'au niveau des conventions signées entre Uniciel et les établissements porteurs des projets, il est stipulé que les ressources ainsi produites devront être mises sous une licence de type Creative Commons, donc by NCSA, c'est-à-dire paternité. Donc la paternité des auteurs doit être connue, bien sûr. NC, donc non commercial. Donc tous les usages sont autorisés, sauf des usages commerciaux, pour lesquels, effectivement, il y aurait une demande spécifique de contrat avec Uniciel. Et SA, donc c'est share alike, c'est-à-dire partage des conditions à l'identique, c'est-à-dire que la réutilisation de l'œuvre doit être mise sous la même licence Creative Commons. Donc ça, c'est le choix qui a été fait jusqu'à présent. Je ne peux pas me prononcer sur les possibilités d'évolution. J'imagine aussi qu'au cas par cas, pour une convention particulière, pour un projet particulier, il y aurait sans doute la possibilité de stipuler autre chose avec l'établissement. Voilà. Mais en tout cas, dans le contrat que m'a envoyé Monique Van Vogel, puisque j'ai pas tout en main, évidemment, c'était ce type de licence et c'est le choix qui a été fait au niveau du Uniciel. Donc, par rapport à la problématique des droits d'auteur, est-ce qu'effectivement le fait d'avoir dit ça, ça nous permet d'éviter tout souci à l'avenir, c'est-à-dire que par avance, on donne l'autorisation de réutiliser l'œuvre, hein, de la modifier. Donc ce type de contrat Creative Commons by NCSA autorise les modifications ultérieures par avance, sans qu'il y ait besoin de demander explicitement ensuite...
Merci. On va essayer de vous donner des éléments de réponse. Alors, Serge Bory, puis Jean-Pierre Clavier, s'il le veut, reprendra la parole. Serge, tu as le micro là devant toi, tu vois. Tu as le micro là. Oui, vas-y. C'est bon, parle bien devant.
Ça marche comme ça. Bon, voilà. C'est parfait. Bien, tu m'as demandé de réagir, donc je vais réagir. Je crois qu'effectivement, les plagiaires ont de beaux jours devant eux. Depuis qu'Internet existe, il y a eu un accroissement exponentiel de la copie, du plagiat. Il n'y a qu'à voir nos étudiants lorsqu'ils nous rendent des mémoires en troisième cycle. J'en corrigeais encore l'autre jour quelques-uns. Ils sortent tout droit d'Internet. Ils ne sont absolument pas les auteurs. Donc, je crois que... Hein? Oui, non, mais... c'est incroyable, parce que ça a la photocopie avait déjà développé le plagiat, hein, on l'avait constaté, et je crois qu'Internet amplifie considérablement le phénomène. Bien, alors donc, nos collègues qui sont des spécialistes du droit de la propriété intellectuelle ont de beaux jours devant eux, ils ont intérêt à s'inscrire au barreau, parce que je crois qu'il y aura des affaires. Hein? Je voudrais ajouter un bémol à ce que je suis en train de dire. Heureusement, on connaît le peu d'efficience de ce droit. Si tous les gens qui étaient plagiés faisaient des procès, demain, je crois que l'activité judiciaire s'arrêterait parce qu'il y aurait beaucoup trop d'affaires. Ceci étant dit...
Finalement, le pire, c'est de ne pas être plagié.
Vous avez raison, parce qu'on ne copie que, on ne copie que ce que l'on apprécie. Comme disait Gabriel Tarde, le sociologue, à propos justement de l'imitation, il parlait de l'imitation positive et de l'imitation négative, et il disait on n'imite que ce que l'on aime, que ce que l'on apprécie. Hein, exactement. Donc on a intérêt à être plagié. Donc soyons plagiés. Donc vous voyez, finalement, bon. La deuxième remarque que je voudrais faire, je crois que notre collègue Clavier l'a rappelé, c'est que je crois qu'il est très important, et tous les juristes vous le diront, avant que de signer un contrat, si on a en face un contractant qui est un néophyte, qui n'est pas un juriste, c'est de l'informer. L'informer sur ses droits, l'informer sur ses obligations. Je crois que si on l'informe bien, on évitera par la suite le contentieux, on évitera qu'il y ait des aigreurs d'estomac, parce qu'on viendra toujours vous dire, mais vous ne l'avez pas dit, je ne le savais pas, vous m'avez fait signer n'importe quoi. La troisième remarque... Elle est beaucoup plus générale, elle rejoint un petit peu tous les travaux de la journée qui ont été tout à fait passionnants, tout à fait intéressants. On est un peu frustré parce qu'il manque du temps pour parler et pour développer tout cela, mais on a semé là, c'est quand même pas mal, je crois que tout ça va germer. Je crois que l'enseignement en ligne, c'est un nouveau paradigme dans la pédagogie. C'est pas un scoop ce que je suis en train de dire. Parce que autant on peut préparer chez soi un cours avec un papier et un crayon, tranquillement, en mettant chapitre 1, paragraphe 1, section 1, paragraphe 1, j'ai oublié la section, section 2, donc on peut délimiter l'espace de ce savoir que l'on va transmettre, autant on ne peut pas seul, si on n'est pas un spécialiste, faire de l'enseignement en ligne. On ne peut pas construire, concevoir un cours en e-learning. Alors ça appelle quoi? Ça appelle de nouveaux savoir-faire. Et ces nouveaux savoir-faire, ça appelle de nouveaux métiers. De nouveaux métiers qui ne seront pas des métiers du droit, puisque là nous parlons du droit, ce sera des métiers qui relèveront à la fois du scénario, on en a parlé ce matin, des scénaristes, mais moi j'aime pas tellement le terme parce qu'il renvoie trop à l'image, c'est trop le film. Mais c'est un scénariste qui est à la fois un pédagogue, un psychologue et qui connaît l'informatique. Je ne sais pas si ça existe, ça. Il faudrait marier plusieurs personnes ensemble pour arriver à faire cet enfant. Peut-être arriverons-nous à le faire avec la procréation in vitro. Patrick, je ne sais pas ce que tu en penses. Ça, c'est pas interdit par le code pénal. Bien, donc, je voulais dire par là, et on va revenir au droit d'auteur avec ces systèmes-là, quelle est la part de création entre le juriste, pour prendre l'exemple que nous avons ici, pour bien comprendre que ce soit concret, la part du juriste, c'est-à-dire celui qui apporte la matière et celui qui apporte la manière. Et on l'a dit tout à l'heure, et j'en suis convaincu pour avoir fait de l'EAO il y a 25 ans, je crois que la manière est aussi importante que la matière. la manière d'enseigner, la manière de découper, la manière de construire un cours, la manière de mettre en œuvre des travaux pratiques, de savoir poser les bonnes questions, de faire de bonnes réponses. Je crois à la pédagogie de l'erreur, par exemple. Je l'avais dit ici, je crois, il y a 2 ans. La pédagogie de l'erreur, c'est ce qui permet justement de remettre à niveau l'élève qui n'a pas compris, l'étudiant qui n'a pas compris. Donc, ce travail de conception ne peut pas être un travail purement de celui qui possède seulement la matière. Je crois qu'il y faut un savoir pédagogique particulier adapté à l'enseignement en ligne. Tout ça est en devenir, est en train de se faire sous nos yeux, sans qu'on y prenne garde. Mais je crois que cela va se développer. Enfin, dernière remarque, puisque Yann me demande de faire des remarques. Je crois que le 21e siècle sera le siècle de l'information, mais du trop d'information. Et je crois que l'information va perdre sa valeur marchande. En revanche, ce qui va en gagner, c'est le temps. C'est le temps de l'apprentissage et c'est le temps de la recherche d'information. Ceux qui gagneront la partie au 21e siècle sont des gens qui mettront en ligne des processus, soit d'information, si pédagogique, ou d'information tout court, qui permettront d'apprendre rapidement ce savoir et cette matière. Tu n'es pas d'accord avec moi, Patrick, là-dessus? Si? Non? Il me contrarie toujours. Hein, c'est... Voilà ce que je voulais dire. Pardonnez-moi si j'ai été hors sujet. Je crois que j'ai débordé le sujet.
Merci. Jean-Pierre, une remarque sur la question qu'a posée notre collègue scientifique à la fin de son intervention. Creative Commons, etc. Là. Vous voulez reformuler votre question? Parce que vous souhaitiez, si j'ai bien compris, avoir une réponse.
C'était plus un témoignage sur les choix qui avaient été faits.
Non, mais à la fin, il y avait une question, non ?
La seule question, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris par rapport à ce que vous avez dit sur le droit d'auteur, c'est est-ce que ça veut dire qu'au niveau des établissements qui signent cette convention avec UNICEF, la ressource produite dans le cadre de la convention va être mise sous cette licence ? UNICEF se décharge sur les établissements pour signer des contrats avec les auteurs, bien entendu. Hein. Mais est-ce que ça veut dire justement que l'établissement au niveau du contrat signé avec l'auteur doit faire stipuler par l'auteur qu'il accepte que son contenu soit mis sous cette licence, c'est ça?
Je crois, oui.
Voilà la question. Donc c'était bien ça. D'accord. Jean-Pierre, vous confirmez.
Oui, oui, c'est un jeu de poupée russe. D'accord. Il faut que tout ça s'emboîte parfaitement, oui.
Oui. Alors, le temps est venu maintenant d'élargir la table ronde. Alors là, il y a des mains qui se lèvent, c'est une forêt. Je vous en prie.
Bon, je voulais remercier M. Clavier parce que j'ai l'impression d'avoir tout compris. Alors, c'est sympa. Je voulais répondre à M. Bory que ces nouveaux métiers, ils existent, puisque j'ai participé dans le cadre de l'Observatoire des métiers à la révision des emplois types. Et dans la BAPEF, le nouveau métier que vous souhaitez, eh bien, il s'appelle ingénieur en technologie de la formation. Et donc, c'est tout le domaine de l'ingénierie pédagogique. Et je vous remercie de saluer ce besoin, qui est effectivement un besoin, puisque bien que les universités n'aient pas eu de création de postes cette année, il y a 13 postes au concours qui vont être affectés cette année.
Je le savais, madame, parce que je relais. Je suis un juriste.
Ah, vous avez fait semblant de ne pas savoir.
Non, alors. Je viens du droit et je suis aussi en sciences de l'information et de la communication.
D'accord. Je vais en profiter pour poser une petite question qui est d'ordre pratique et qui rejoint l'esprit que vous avez soulevé. C'est ce que vous disiez, monsieur, à propos des documents d'éditeurs. On a le cas, par exemple, pour la pharmacie, d'un ouvrage collectif disciplinaire dans le domaine du médicament, donc ça évolue, et on a proposé aux enseignants de mettre des ressources en numérique, et le problème qui s'est posé, c'est de dire, ben, on a un bouquin, il est édité, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Alors, est-ce qu'on a le droit de faire des nouveaux chapitres pour les réactualiser en utilisant un outil particulier qui va s'appeler une chaîne éditoriale? Ça veut dire qu'on va les présenter différemment. Est-ce que si on reprend les mêmes ressources, mais que pédagogiquement on les conçoit autrement, avec des activités pédagogiques, est-ce que ça devient un nouveau produit? Est-ce que c'est une création? À partir de quand est-ce qu'on passe d'une édition papier avec des droits d'auteur à une édition numérique où on aura changé la présentation? Est-ce que simplement changer la présentation suppose qu'on a changé de produit? Ou est-ce que changer la présentation et changer le concept pédagogique, ajouter des activités pédagogiques, ça devient un nouveau produit. À partir de quand est-ce qu'on... Voilà.
Bon, mais merci. Alors, est-ce qu'on peut rapidement répondre avant les autres?
C'est une vraie question, parce que c'est une question de frontières. Et les questions de frontières, évidemment, elles sont compliquées. S'il s'agit de changer de présentation, la présentation, c'est quoi? C'est la présentation du texte, c'est-à-dire la police de caractère Non, c'est pas ça. C'est l'articulation des idées. C'est pas ça non plus, c'est avant, on se situe entre les deux.
D'abord, c'est utiliser une chaîne éditoriale, ça suppose qu'on va refaire un plan, qu'on va le structurer différemment, qu'on aura une présentation qui sera à la fois numérique et papier, la présentation papier étant différente de la présentation de l'ouvrage d'édition.
Oui, mais le professeur André Lucard disait ça ce matin, que l'originalité, l'originalité finalement est quelque chose de qui s'apprécie de manière très avec une exigence très faible, de telle sorte que on peut considérer, moi je pense que si le contenu, je parle du contenu, non pas seulement dans sa présentation, mais dans la manière dont les idées s'enchaînent, dans la manière dont les exemples que l'on choisit, il suffit de changer un peu les choses, de les présenter de manière un peu différente. On va pas changer le contenu, parce qu'encore une fois, le contenu, il sera le même. L'information de départ, la donnée brute, elle sera la même, et le droit d'auteur, d'ailleurs, ne saisit pas ça. Le droit d'auteur saisit la manière dont vous présentez les choses. Une présentation au sens intellectuel, pas seulement la présentation formelle. Et donc, dès lors qu'on a une autre approche, un autre angle d'attaque, et puis aussi d'autres contraintes, la contrainte de l'éditeur papier par rapport à un autre éditeur n'est pas la même. Alors, quelquefois, ça emporte des conséquences qui conduisent à refaire beaucoup de choses, à réduire. Parfois, quand on part d'un texte qui fait 20 pages et qu'on doit faire un texte qui fait 10 pages, finalement, on fait un autre texte. Et cet autre texte présentera une nouvelle originalité. Je sais pas. Bon, mais c'est très lié évidemment au cas. Et pas celle-là.
Carrément d'extraire, si j'ai bien compris, une partie des ressources disponibles. Simplement, je prends un exemple idiot, mais mettre le chapitre 1, le mettre en chapitre 8, ou chapitre 8 mettre en.
Non, je crois que je crois pas.
Plus que ça.
Oui, c'est remodifié. Parce que c'est l'échelle éditoriale. Bon, madame, je vous en prie.
Oui, c'est une question.
Question rapidement, s'il vous plaît.
Oui, oui, elle va être très simple. Je voudrais revenir sur les contrats de cession de droits patrimoniaux. Oui. Bon, je suis un auteur, admettons, et je vais céder mes droits patrimoniaux dans le cadre des activités de l'e-learning, comme disait M. Bonnotal tout à l'heure. J'aimerais bien, dans ces cas-là, savoir si je vais donc offrir des ressources et des services associés aux ressources. Non, c'est ce qui se passe dans les UNT, donc ça va être mis en ligne, etc. Par contre, est-ce que je donne le droit absolu et non négociable à celui qui est propriétaire, par ailleurs, dans d'autres circonstances, dans des suites que je n'imagine pas, de reproduire et diffuser certaines ou tout ou partie de mes données, soit sur à des fins commerciales, sur DVD, en passant diffusion sur antenne, télévision, radio, etc. Je pense que ça peut se négocier à l'intérieur de contrats, mais je voudrais que ce soit dit.
C'est la manière dont vous exprimez la question, et je ne sais même pas de quoi il peut être question. Vous avez dit dans votre question que ce sont des applications, des possibilités ultérieures que vous-même ne définissez pas. Alors, si vous ne les définissez pas au moment où vous concluez le contrat, est-ce qu'on sera pas en présence d'une clause qui sera trop large, qui n'envisagera pas toutes les applications, et alors on viendrait se mettre en porte-à-faux vis-à-vis des dispositions légales.
On vous entend pas. Donnez un micro, s'il vous plaît, madame. On vous entend pas.
Merci. L'idée, c'est que c'est le propriétaire, le nouveau propriétaire, celui qui a les droits patrimoniaux, qui doit définir lui-même le cadre de l'exploitation de ses ressources et la limite de ses ressources. Et lorsque le cadre devient un cadre commercial, s'il est encore propriétaire, par exemple, si l'établissement a acquis mes droits en tant qu'auteur et qu'il décide cette fois de passer une partie sur antenne nationale ou mettre ça sur DVD, c'est pas prêt.
Ça suppose qu'il ait déjà les droits. Ça suppose qu'il en soit déjà titulaire.
Ça suppose que ce soit écrit dans le contrat.
Ça suppose que l'auteur, le premier, ait conçu ça pour que ça puisse être transféré et à nouveau transféré. Nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a.
Voilà. Michel Armat.
Je vais reprendre la question en la dramatisant un peu. On sait tous qu'on est en train de passer au Web 3, mais déjà le passage au 3.0, le passage au 2.0, fait quand même que le modèle économique, donc j'aurais pu poser ma question à la table ronde précédente, mais j'y étais, mais le modèle juridique aussi risque de changer énormément et ça peut rejaillir sur la signature du contrat. Un exemple. Certains de nos enseignants ne souhaitent pas qu'il y ait une exploitation commerciale, c'est ce que tu disais, de leur œuvre, dans un cadre qui peut aller jusqu'à la coupure publicitaire ou jusqu'à des redevances importantes. Le débat publicité, mot que nous n'avons pas encore prononcé, et redevances, mot que nous avons très peu prononcé, mais qui est à l'actualité, vous le savez, à la télévision, risque de le devenir dans notre domaine. Est-ce que dans le contrat d'auteur, quand on dit qu'on cède pour exploitation, comme elle le dit, est-ce qu'on peut préciser des choses ou pas?
Il faut les préciser. Et l'auteur peut très bien décider qu'il n'entend pas que sa création soit exploitée dans telle circonstance ou dans telle autre. Donc ça, c'est... Alors là, oui. Simplement, après, est-ce que son partenaire souhaitera poursuivre les relations avec lui parce qu'il est décalé par rapport à ses besoins? C'est autre chose. Mais il est évident que, premièrement, l'auteur qui peut accepter peut refuser.
Pierre Pérez. Et puis Jean-François Lemaître donnera un élément.
Pierre Pérez, le micro, s'il vous plaît. Je pose une question. N'y aurait-il pas un subtil différentiel à faire entre un contrat de cession et une simple autorisation d'utiliser? Est-ce que pour les UNT, il n'y aurait pas un dispositif plus souple, plus simple, qui permettrait de régler beaucoup de problèmes de formalisme lourd, y compris la question de la rémunération, pour le simple fait de ne pas se déposséder de sa propriété, en quelque sorte? C'est-à-dire, je t'autorise à utiliser de manière non exclusive, pour telle utilisation, ma création. Est-ce que justement, juridiquement, en matière de droit d'auteur, est-ce que l'autorisation peut d'ailleurs se passer par de l'écrit? Et est-ce que je pose cette question, si on peut me répondre, j'aimerais l'avoir, cette réponse, parce que ça peut régler pas mal de problèmes. Voilà. Et bon,
si la question revient à dire comment est-ce qu'on pourrait écarter les dispositions d'ordre public du droit d'auteur. Oui, mais. Non, moi je crois pas. C'est d'ordre public. Donc je crois pas.
La cession de droit est d'ordre public. L'autorisation.
Prenez le micro parce que vous n'êtes pas enregistré.
En tout cas, bon, je rapporte l'expression de certains spécialistes du droit d'auteur sur cette question-là. Enfin, l'autorisation, je peux vous dire, n'a pas besoin de s'exprimer par un écrit. L'autorisation d'utiliser une œuvre à titre non exclusif.
Je ne sais pas.
Je peux donner des références. Hein,
j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
Mais face à votre impression exprimée de manière manifeste dans laquelle il faut un écrit à chaque fois, je me doute et je souhaiterais qu'on puisse se poser cette question-là. Est-ce que le fait de ne pas se déposséder de sa propriété, là pour le coup, l'enseignant reste propriétaire de sa création? C'est une sorte de, je mets à votre, vous disposez, mais je reste toujours propriétaire. Je peux partir avec aussi, hein. C'est vrai qu'il y a cet inconvénient-là. Mais ça peut faciliter peut-être la mise en utilisation des œuvres qui sont nécessaires.
Apparemment, vous avez beaucoup d'opposants, Pierre, là. Vous êtes une doctrine minoritaire, comme on dit nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a forcément tort, remarquez. Des fois, la minorité a raison.
Un jour ou l'autre.
Elle est minorité. Là, apparemment. Bon, alors, Jean-François Lemaître avait demandé, Patrick Lescure-Chambon, Michel Morobelia. Parce qu'il y a le tout.
Oui, non, c'était très simple. En fait, les contrats que l'on passe sont des contrats incomplets, parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, même dans un horizon même un temporel relativement proche. De quel côté est la charge de la preuve quand les dispositions ne sont pas édictées pour une situation qui n'était pas connue au départ? J'ai l'impression que la charge de la preuve est du côté
des UNT ou des universités, et que l'a priori favorable est du côté des auteurs, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
C'est moins une question, de charge de la preuve que la question d'une disposition qui n'est pas prévue dans le contrat, l'imprévision. Si c'est pas prévu, la règle, le principe, après, faut voir comment un juge peut l'adapter, mais le principe, c'est que si c'est pas prévu, c'est pas prévu.
Donc il faut.
Et que c'est favorable à l'auteur.
Et donc c'est pas possible. Ouais. Patrick Metz du Chambon, Michel Morovelia.
Je voulais revenir, madame, sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez l'air d'avoir des inquiétudes dans la mesure où vous livriez des ressources à des enseignants qui les utilisaient ensuite et les exploitaient dans le cadre de leurs propres cours, leurs propres enseignements. Je ne me suis pas trompé. C'était une de vos inquiétudes. Et de savoir quelle était l'étendue de leur liberté ou que pouvaient-ils faire avec ce type de ressources.
Non, c'était de savoir si le fait, effectivement, de mettre ce type de licence par rapport au droit français, par rapport à un tribunal, est valable, effectivement. Est-ce qu'il faut spécifier si on a une ressource qui comporte des éléments granulaires qu'on réutilise des grains, ce qu'il faut avoir spécifié dès le départ au niveau du contrat, que la licence s'applique aussi à chaque grain pris isolément, par exemple.
D'accord, bien.
Ce que semblait dire madame pour la pratique de neige. Et par ailleurs, donc je reviens quand même sur ce que j'ai dit par rapport au schéma, le problème aussi qu'on a, c'est la réutilisation donc de cours qui comportent des schémas sur lesquels les auteurs, a priori, n'ont pas les droits. Et est-ce que je viens de penser quelque chose, vous avez cité ce matin le droit de citation et l'exception pédagogique. Est-ce que finalement, on a quand même le droit, dans le cadre du droit de citation ou d'exception pédagogique, devant ses étudiants, dans un cours, de mettre un certain nombre de schémas en citant la source, sans demander une autorisation écrite?
C'est un problème qui sera traité ultérieurement, et vous avez tout à fait raison, il y a un problème d'illustration. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation, ou de manière granulaire, ou intégralement, si c'est pour son propre cours, il n'y a aucun problème. En d'autres termes, je crois que l'enseignant est relativement libre, comme quand il utilise des ouvrages qui sont des ouvrages traditionnels pour son propre enseignement, dès lors qu'il ne l'exploite pas et dès lors qu'il ne le diffuse pas auprès d'autres personnes. Parce que c'est là que se pose le problème. Parce que dans l'édition papier aujourd'hui, quand quelqu'un monte un cours, il prend 3 ou 4 ouvrages, et très souvent, il emprunte beaucoup de choses, et il n'y a jamais eu de difficulté sur le plan universitaire. Je dirais même que c'est la loi commune quand on commence à faire un cours. Le fait qu'on soit sur un enseignement numérisé ne me paraît pas changer la donne. Enfin, je demanderai confirmation au professeur Clavier. Par contre, si la personne ensuite, à partir de son cours, entente en faire une exploitation et le diffuser auprès d'autres personnes, alors là, on voit réapparaître le problème. Et là, je crois que dans la mesure où il n'y aurait pas une originalité et où il ne pourrait pas s'approprier, parce qu'on n'aurait pas l'empreinte de sa personnalité, mais celle des sources qu'il a empruntées, je crains que là, on se trouve en situation difficile sur le plan juridique, sous réserve de ce qu'on verra, quel est le droit de citation et quelle est son étendue, qui est un autre problème.
Merci. Michel Moreau-Béliard, le micro, voilà. Merci.
Oui, je voudrais d'abord demander aux juristes ici présents, à propos de la licence Creative Commons qui fait fureur dans le milieu universitaire, bon, je vous rappelle qu'il y avait eu un audit commandité le ministère, par la SDTIS, il y a de cela peut-être 2 ans, je crois, qui avait montré qu'elle n'était pas conforme au droit français, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Il me semble qu'ensuite, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un groupe de travail des Assises qui ont fait une adaptation de la Creative Commons pour qu'elle se rapproche du droit français. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes? Est-ce que la licence Creative Commons est aujourd'hui conforme au droit français? Est-ce qu'on peut l'utiliser ou est-ce que son utilisation, ça peut fleurir dans le paysage, mais c'est inutile au plan du droit.
Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut
faire? J'avoue que j'ai pas d'informations précises. Moi, enfin, je vois Karine. Voilà, je suis soulagé de voir qu'elle prend le micro. Elle connaît bien ces questions-là.
Oui, sur ce point, je crois qu'il n'y a pas a priori de difficulté particulière avec la licence Creative Commons dès lors qu'on respecte les dispositions d'ordre public. Et comme le principe même de la licence Creative Commons, c'est qu'on identifie les exploitations autorisées, commerciales, non commerciales, etc. Après, là où il peut y avoir une limite, c'est effectivement sur le degré de précision qu'exige, comme l'a expliqué le professeur Clavier, la loi française. C'est-à-dire qu'il faut envisager les exploitations. Mais dès lors qu'on respecte cette exigence-là, il n'y a pas de réserve particulière à émettre au regard des licences Creative Commons. C'est-à-dire que ce qu'on décide d'interdire, on peut décider de l'autoriser. Et finalement, c'est ça la logique des licences Creative Commons, c'est qu'on autorise plutôt qu'interdire.
Absolument.
Est-ce que...
Alors,
vous êtes toujours dans la doctrine
militaire. Non, mais...
Non. Bon, c'est des travaux que nous avons menés avec le professeur Pierre Serinelli, Michel Vivant, Gilles Verken. Effectivement, la formation sur laquelle l'autorisation pouvait être un palliatif, un dispositif qui permet d'assouplir les règles. Et bon, mais c'est des paroles que j'ai entendues. Je ne suis pas spécialiste au point de pouvoir le certifier face à d'autres spécialistes. Mais je peux vous garantir que j'ai essayé de faire venir ces spécialistes-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir parce qu'ils avaient d'autres... En tout cas, leur expression est de dire sur la question de l'autorisation, c'est qu'effectivement, nous avions là... Mais je suis toujours minoritaire jusqu'à preuve du contraire. Alors, sur la Creative Commons, effectivement, il y avait eu... à la sous-direction des technologies de l'information, de la communication et de l'éducation, un audit qui avait été fait, parce qu'effectivement, ceux qui recouraient à la Creative Commons, c'était ceux qui en avaient le plus besoin, donc c'était précisément les enseignants, c'était donc les personnels de l'éducation nationale. Donc il s'agissait de savoir si effectivement ce dispositif était suffisamment protecteur. En fait, c'est une adaptation du droit américain qui est faite à la française, avec un certain nombre de difficultés. C'est l'impossibilité de suivre le devenir de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on perd complètement le fil. Alors, une des principales obligations pour un auteur, c'est pour le moins de ne pas jamais perdre le devenir de son œuvre, y compris éventuellement d'avoir la possibilité de la modifier. Ensuite, on a parlé de la nécessité de l'écrit. Or, cet écrit, ça se traduit principalement par une icône, par un symbole. Vous avez effectivement le droit d'utiliser cette œuvre-là. Et vous ne m'empêcherez jamais de déposer le grand bleu en mon nom en Creative Commons. Ce qui est aussi une vérité. Et par ailleurs, il y a d'autres difficultés qui se font sentir, c'est que ça met en péril un certain nombre de secteurs économiques, comme la photographie en particulier. C'est-à-dire que les photographes souffrent de la Creative Commons véritablement. Donc pour l'instant, il y a, semble-t-il, des précontentieux sur cette question-là. Il faut dire que ça part d'une démarche tout à fait généreuse, c'est-à-dire qu'il faut soutenir la Creative Commons. Encore faut-il qu'elle puisse respecter et s'adapter aux exigences du droit territorial français. Autre inconvénient de ces licences, c'est que là où elles se veulent ouvertes, elles aboutissent à l'enfermement, puisqu'elles condamnent dès lors qu'elles sont réutilisées, intégrées dans une autre œuvre, elles le condamnent à devenir Creative Commons ou art libre.
Non.
Ah bon, c'est nouveau alors, pardonnez-moi.
Non, il y a 6 types de licences Creative Commons, et il y a une des clauses qui est justement partage des conditions à l'identique. Si on a dit que partage des conditions à l'identique, ça veut dire que quelqu'un qui réutilise l'œuvre doit la mettre sous la même licence Creative Commons. Si on a dit pas cette clause, il n'est pas obligé de le faire.
Et inversement,
ça, c'est clair.
Bon. Alors écoutez, face à ces inconvénients, il a été fait un travail de fond et il a été créé une nouvelle licence qui aboutit d'une part à un remplissage d'un formulaire, à l'indication de manière pédagogique à l'ensemble des droits que l'on souhaite mettre à disposition des tiers. Et de l'autre côté, l'utilisateur qui est toujours identifié, qui va choisir, et qui va avoir en téléchargement un document qui va lui attester effectivement du droit d'utilisation de cette œuvre-là dans tel et tel contexte. Ça va être lancé dans la semaine dans le cadre des espaces publics numériques, faciliter le développement des usages au bénéfice de ces publics qui sont accueillis pour s'initier à de nouvelles technologies. Et un travail est en ce moment envisagé pour le déployer aussi bien dans les universités qu'en direction d'un certain nombre de démarches qui se font en matière d'inclusion numérique. Avec une contrainte, semble-t-il, c'est de régler ce problème d'interopérabilité entre les licences. Alors, si c'est réglé, je voudrais qu'effectivement, avec la Creative Commons, un travail d'interopérabilité soit fait. Voilà, c'était le commentaire sur cette question.
Oui, alors, Emmanuel Vitali, je vous en prie, prenez le micro.
Vous avez la place de partage et contenu en ligne.
Alors, juste une question précisément sur la Creative Commons, parce que moi, il y a quelque chose dans la Creative Commons qui n'est pas très clair pour moi. C'est est-ce que, d'après ce que j'ai compris, on peut modifier, l'auteur peut modifier alors que son œuvre est utilisée, peut modifier les icônes de la licence Creative Commons. Alors, ça pose quand même un problème, parce que, c'était en fait, il me semblait, ce que j'avais noté,
Il pourrait les modifier pour de nouveaux contrats ou pour des contrats
en... Non, il pourrait modifier, c'est-à-dire modifier un icône en cours des contrats. J'avais noté ça, en fait, c'était pendant à Lyon, là, il y a 2 ans, pendant le colloque e-learning.
c'était Yann Bergeau qui, ça m'avait marqué, et qui parlait de précarité donc de ces licences. Donc ça me paraît un peu. Oui, exactement.
Oui. Il était invité ici, d'ailleurs, et il n'a pas pu malheureusement nous rejoindre. Demain, il y a Hervé Krause qui sera là, mais Bergeau va y être aussi. Il n'a pas pu être là, c'est dommage qu'on puisse pas.
Mais ce que j'ai compris, moi, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune décision judiciaire qui a été rendue sur les Creative Commons, donc on est quand même un peu entre une doctrine qui est plutôt favorable et une autre qui est plus mitigée, plus réservée, exactement. C'est un peu mon sentiment, donc apparemment, je vois que c'est ça. Bon, ok.
Tout de même.
Isabelle Ramad. Oui, j'ai Michel Dupuis après. Alors Isabelle Ramad, allez-y. Mais on vous a mis un micro là, madame, devant vous.
Ça fonctionne pour l'enregistrement aussi. D'accord. Donc, ce qui est indiqué sur le site Creative Commons, donc il y a la licence, enfin il y a 6 licences Creative Commons qui sont à géométrie variable, et il y a le texte de la licence originelle qui est la Unported. Et il y a aussi des adaptations en droit national. Et de ce que j'ai lu sur le site des Creative Commons, pour la France, il y a eu une adaptation faite avec des juristes français pour que ce soit conforme au droit national. Voilà. Donc, effectivement, si des spécialistes du droit d'auteur pouvaient nous le confirmer, effectivement, ce serait une bonne chose.
Oui, alors je voulais juste rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Il ne faut quand même pas confondre deux choses. Le Creative Commons concerne le logiciel qui est libre.
Non, pas du tout. Pas du tout. Les Creative Commons, on peut mettre effectivement des photographies, on peut mettre de la musique sous Creative Commons.
Mais ça ne veut pas dire que les photographies que vous y mettiez sont libres de droit. Il ne faut pas confondre.
Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Non, c'est ce que j'ai signalé tout à l'heure. Bon, mettre une licence libre, ça ne veut pas dire libre de droit.
Exactement. Il faut faire très très attention.
Et d'ailleurs, j'aimerais que des juristes éclaircissent cette question de libre de droit, parce que moi j'avais entendu que cette notion n'existait qu'en droit américain et pas en droit français. En même temps, sur les agences de photos, maintenant, il y a deux types de photos. Il y a des photographies dites en droit géré, qui sont dans le système traditionnel où on rémunère en droit d'auteur, suivant la taille de la photo et l'usage, et des photos qui sont dites libres de droit, mais c'est pas libre de droit au sens où on fait ce qu'on veut, c'est juste qu'elles sont vendues. Elles sont vendues, c'est pas vraiment une vente, mais que celui qui les achète peut les utiliser
de manière très souple, très ouverte.
Comme il veut, autant de fois qu'il veut.
Qui renoncent à leurs droits.
Donc c'est pas du tout une signification libre de droit au sens qu'on
ceci
croit.
Ceci dit, renoncer à ses droits, il faut quand même mesurer.
Non, ils renoncent pas à leurs droits.
Parce que les droits moraux, on peut pas altérer la photo.
Ils renoncent pas à leurs droits.
Ils renoncent à leurs droits, on peut. Voilà.
Absolument, tout ça concerne les droits d'exploitation, on est bien d'accord.
C'est ça qui. Droit d'exploitation, oui, mais jamais le droit moral. Et ça,
mais le but, effectivement, par rapport au droit d'auteur traditionnel, avec ces licences, c'est que par avance, on accorde des droits d'exploitation à des utilisateurs potentiels futurs qui ne sont pas encore déterminés, mais qui évitent ensuite à ces utilisateurs de demander explicitement à l'auteur, par écrit, un droit d'utiliser son œuvre. Voilà. C'est ça le but de ces licences. Mais non, puisque l'auteur fait ce qu'il veut avec son œuvre, il peut très bien décider, a priori, de mettre une licence. Accordant des droits d'exploitation
par rapport à Pierre Pérez. Pierre Pérez, le micro, s'il vous plaît.
Le fait que les utilisateurs futurs ne soient pas déterminés pose un problème de contrat. On me dit que la cession de droit français se fait par l'intermédiaire d'un contrat. Or, on a une partie qui manque. On ne sait pas quelle est la partie qui utilise l'œuvre.
Je ne crois pas, non.
Non, mais c'est le cas quand on attache une licence
Karine,
à une œuvre.
Attendez, toujours.
Pour un logiciel, c'est le cas. On ne sait pas qui va utiliser un logiciel. Quand on installe un logiciel, qu'on clique sur « J'accepte la licence », l'auteur initial du logiciel ne nous connaît pas a priori.
Exactement, je crois qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. L'idée, c'est que à partir du moment où on décide d'exploiter l'œuvre, il y a un contrat qui nous est proposé. Soit on l'accepte et on peut utiliser l'œuvre, soit on ne l'accepte pas et on ne peut pas utiliser l'œuvre. Donc l'identification se fait au moment où la personne accepte ou non le contrat. On lui donne le choix. Soit vous acceptez d'utiliser de telle façon, soit vous ne pourrez pas utiliser. J'accepte, je suis lié par le contrat et il n'y a aucune difficulté, je pense, sur ce point-là.